Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux.
J'ai invité ce soir Caroline Galacteros, polémologue, colonel de la réserve opérationnelle de l'armée de terre et auteur d'un livre remarquable intitulé « Manière du monde, manière de guerre », livre préfacé par Hubert Védrine. Oui, Caroline Galacteros, vous avez écrit un livre très étonnant. D'ailleurs, il faut peut-être expliciter le titre, parce que vous essayez de retrouver les manières du monde en examinant nos manières de faire la guerre. Comme si, et je crois que c'est vrai, on pouvait lire une société à travers... ces façons militaires, c'est-à-dire que les manières de guerre font loupe sur les états de paix et sur toutes les apories du monde postmoderne. Et là, vraiment, vous mettez en miroir, pour ainsi dire, la stratégie et l'anthropologie, chacun, chacune éclairant l'autre. Alors c'est remarquable parce que vous... surmonter le cloisonnement des compétences et des activités. D'un côté, il y a des sociologues, des anthropologues, puis de l'autre côté, il y a des polémologues, ce que vous êtes aussi, mais pas seulement. Et donc, d'un côté, on examine les moyens sans examiner la fin, et de l'autre, on examine les fins sans examiner les moyens. Donc, votre présence ici est tout à fait, indispensable. Alors, ma première question, et que vous évoquez dans votre livre, c'est qu'est-ce qu'implique ce que vous appelez le continuum entre l'intérieur et l'extérieur, entre, les défis de sécurité intérieure et les défis extérieurs, qui sont d'ailleurs théorisés, je crois, dans le livre blanc, où la notion de sécurité remplace la défense. Qu'entendez-vous par là, cette intrication ?
Oui, c'est une intrication qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus visible, de plus en plus tragique. Certes, le dernier livre blanc en avait parlé, mais on était très loin de l'intensité avec laquelle nous la vivons désormais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre les interventions que nous menons à l'extérieur, les raisons pour lesquelles nous disons les mener, nous les menons, et l'impact de ces interventions sur notre sécurité intérieure, il y a un lien direct. Il y a ensuite un deuxième lien entre la violence extérieure et la manière dont elle se transporte et s'exprime sur notre territoire national. Là, il n'est pas besoin de trop développer. On l'a vécu et on l'a subi dans notre chair et nos concitoyens le savent bien. Donc c'est un continuum à deux faces, si vous voulez. Entre la guerre à l'extérieur doit se mener pour mener aussi pour assurer la sécurité intérieure et en même temps ce que l'on y fait de bien ou de mal, ce que l'on fait de bien ou de mal au loin a un impact sur ce que l'on peut faire ici.
Oui,
et l'ennemi, lui aussi, il est là-bas et ici.
L'adversaire
ou l'ennemi, selon...
Caroline Galacteros, vous voulez dire que la mondialisation et l'émigration, effectivement, créent une intrication des questions de société à l'intérieur et des questions stratégiques à l'extérieur. Mais les ensembles culturels, soyons clairs, disons l'ensemble occidentalo-chrétien d'un côté, l'ensemble islamique de l'autre, ils sont plus séparables les uns des autres. Nous vivons une période de migration, mobilité de la force de travail qui va avec celle des capitaux, donc réfugiés de toutes les guerres à l'extérieur, peut-il y avoir des frontières étanches? Comment aujourd'hui pourrait-on séparer l'intérieur de l'extérieur? Vous me dites qu'il ne faut pas les séparer, mais certains disent, nous avons une cinquième colonne alors, à l'intérieur?
Oui, alors, c'est une question complexe, délicate. Bien sûr, on ne peut pas les séparer de fait. Il y a cette intrication, il y a cette interpénétration, à la fois historique, culturelle, oui, économique.
Qu'il n'y avait pas dans les guerres entre États, où il y avait une frontière. Aujourd'hui, la frontière, c'est le corps de chaque citoyen.
Ça le problème. Ouais. C'est que nous avons, notamment depuis la fin de la guerre froide, nous avons assisté à un grand, vaste et consenti, et même accéléré, mouvement de déconstruction des États, des nations, des frontières, de ce qui faisait une transcendance nationale pour les peuples, et parallèlement une explosion de l'individualisme, et que, comme vous dites, les frontières se sont rapprochées des individus, et finalement, maintenant, oui, chacun, j'allais dire, voit midi à sa porte, pour parler vulgairement, et donc, on a une déperdition de ce que peut être la tonalité civilisationnelle d'un ensemble par rapport à l'autre. Je ne dis pas qu'il faut les séparer complètement, c'est impossible, c'est infaisable et ce n'est même pas souhaitable. Mmh. Il y a des apports qui peuvent être très utiles. Maintenant, il faut savoir ce que l'on veut être. Il faut oser se poser cette question. Qui sommes-nous? Que voulons-nous rester? Que voulons-nous devenir? À quelles conditions est-il possible de le faire chez nous, de manière harmonieuse? Et si certains ne le considèrent pas souhaitable et veulent attaquer, parce que nous avons quand même affaire à une véritable agression maintenant sur notre territoire national, qu'on le veuille ou non, elle est là, elle est sourde, elle prend pour l'instant encore des formes spectaculaires et ponctuelles
et sporadiques.
Oui, mais sporadique, mais qui aurait pensé il y a encore, je ne sais pas, ne serait-ce que 2 ans, que l'on viendrait assassiner des policiers chez eux, que l'on viendrait les tuer en commando leur voiture.
Effectivement.
Enfin, il y a des choses absolument ahurissantes.
Oui, qui dépassent sans doute produites. D'ailleurs, dans l'ahurissement, une autre vague d'attentats qui a secoué l'Europe entre 1880 et 1910, qui est la vague des attentats anarchistes. Je vous signale que là aussi, on venait tuer des commissaires chez eux.
Tout à fait.
Donc, faisons un peu d'histoire, peut-être.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, nous avons eu en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, et plus encore, finalement, après la fin de la guerre froide, une espèce d'illusion de pacification, d'harmonie collective possible, et même exportable. Alors après, on peut s'interroger et discuter de la manière dont on l'exporte et de l'intelligence de nos modes d'exportation. Une autre partie du débat. Mais en tout cas, nous avons vécu dans cette espèce d'utopie pacifiste.
Oui. D'exception historique invraisemblable. 70 ans de paix intérieure, disons, si on laisse la guerre d'Algérie de côté. Et donc, ça nous a un peu anesthésiés, il est vrai. Mais je crois que, si on revient à votre livre, Manière du monde, manière de guerre, ce que vous nous montrez, Caroline Galacteros, c'est quelque chose dont on s'avise assez peu. On s'en avise d'autant moins que les armées se professionnalisent, que le technicien y remplace le combattant, qu'il y a une sorte d'utopie technicienne venue des États-Unis qui s'est sans doute emparée de nos armées à nous. Mais ce que vous démontrez, c'est précisément que l'efficacité militaire des armées occidentales, si l'on en juge par l'Irak, l'Afghanistan ou la Libye, l'efficacité militaire des interventions occidentales est à la baisse, alors que la sophistication technologique est à la hausse. Autrement dit, Caroline Galacteros, vous ne dites pas que on est peu efficace, bien qu'on soit supérieurement armé, mais vous dites on est peu efficace peut-être à cause de notre surprotection, surequipement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela concrètement ?
Oui, mais vous le dites extrêmement
bien. C'est un problème
bien. Mais concrètement, nous vivons effectivement, et pas seulement dans le domaine militaire, nous vivons une utopie technologique globale. C'est-à-dire que nous croyons, nos sociétés modernes occidentales identifient la modernité et le stade suprême de développement à la marge du progrès technologique. Bon. Et donc, voilà, on le voit dans les avancées du transhumanisme maintenant, qui sont concrètes, qui vont inspirer, instiller toute la vie de nos concitoyens et de plus en plus. Ce que fait Google actuellement, ce que font certaines de ses filiales. Bref, le transhumanisme est déjà à l'œuvre. Le transhumanisme, c'est quoi? Ce n'est pas une amélioration, une augmentation simplement des capacités, c'est une transformation.
Alors, comment ça s'exprime au plan militaire?
Eh bien, ça doit s'exprimer en tout cas par une grande vigilance. Car évidemment, les armées ont besoin, de la technologie pour la protection des forces, pour l'augmentation de leurs capacités. Il ne s'agit pas de nier l'apport du progrès technologique. Il s'agit de faire en sorte que cela n'empêche pas les soldats, notamment ceux qui, bien sûr, sont des combattants au sol, de rester en contact avec la réalité du conflit qu'ils ont à mener, à tenir. Et on a eu, dès les années 90, finalement, et d'ailleurs quand on pense à la Syrie aujourd'hui, finalement, on ne fait que redécouvrir la réalité de la guerre. On a cru pendant longtemps que l'on pourrait faire des guerres à très haute distance de l'ennemi, et de manière très efficace, précise, chirurgicale, y compris civilement, respectable des populations civiles, etc. On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on n'y arrive pas, parce qu'il s'agit d'avoir des hommes au sol, parce qu'il s'agit de tenir dans la durée des territoires immenses, parce qu'il s'agit d'être au contact, parce qu'il s'agit aussi de ne pas perdre ce qui fait la spécificité du métier militaire. Et la spécificité du métier militaire, c'est l'idée, bien sûr, que l'on consent à sa propre mort et que cela permet de pouvoir imaginer la donner, mais c'est aussi un lien. Finalement, quelle que soit la sauvagerie de l'ennemi, il s'agit de maîtriser notre force et de conserver notre humanité dans l'exercice de cette force, dans l'application de cette force. Or, pour conserver notre humanité, il faut faire très attention à la distance, il faut faire très attention à la surhumanisation du combattant, et c'est une tendance. Il y a des débats actuellement, finalement, si on se projette à un horizon de 20 ans, entre faut-il des soldats augmentés, donc des soldats avec une amélioration considérable de leur capacité cognitive, de leur capacité à subir le froid, la faim.
Avec des oreillettes, des lunettes
infrarouges. Exactement. Ou bien est-ce qu'on va avoir des robots humanisés? Mmh. Et derrière tout cela, il y a l'idée de la décision, du libre arbitre, de la capacité de décision du soldat, y compris au plus petit niveau. On le voit bien, on voit bien les effets de cela avec les drones armés. Et avec les traumatismes que ça enclenche chez les agents même de ces drones armés, ceux qui sont sur les sticks dans les shelters perdus dans les déserts. Voilà. Ceux-là, ils s'en remettent parfois très très mal. Pourquoi? Parce qu'ils perdent précisément cette distance, ce lien. Ils sont trop à distance. Mmh. Et donc, ils perdent le lien, donc la perception du risque et aussi d'un risque pris. Mmh. Le soldat au sol, il prend un risque.
À ce propos, vous avancez l'idée d'une régression éthique proportionnelle à la moralisation outrancière des affrontements. Autrement dit, on ne parle plus que morale. Nous sommes évidemment représentants des droits de l'homme, nous sommes le camp du bien, nous sommes le camp de la justice, contre des barbares, etc. Mais par ailleurs, nos méthodes, notamment l'assassinat à distance via le drone d'attaque, le drone armé, amènent à penser que l'autre est une non-personne qu'on peut tirer à vue de loin et tant pis pour les dommages collatéraux. Et vous mettez ça en réponse, en réplique, avec la déshumanisation progressive des rapports sociaux dans la vie ordinaire, n'est-ce pas? Alors, autrement dit, on parle droit de l'homme et on agit d'une façon de plus en plus inhumaine. Comment expliquez-vous ce curieux pataquès, puisque nous sommes les chevaliers blancs, n'est-ce pas, nous les occidentaux, et nous sommes en face de gens qui mettent leur vie en jeu, mais nous sommes devant nos écrans, nous avons un stick et avant d'aller chercher nos enfants à l'école, nous envoyons un petit drone sur une fête de village. Oui, votre livre amène à s'interroger sur, comme vous dites, nos manières de faire et de penser.
Oui, ce que j'ai souhaité faire, c'est faire réfléchir sur des grands paradoxes. Sur des grands paradoxes. Et pour moi, au plan, ne serait-ce que de la politique étrangère, pour parler de moralisation des relations internationales, eh bien, cette moralisation est pour moi un masque, en fait, à la fois d'un véritable idéalisme, mais complètement déconnecté du réel, complètement hors sol, et d'un bien réel, bien prosaïque cynisme. Et je pense, et je prône, et je défends l'idée que la réelle politique est infiniment plus humaine que la politique moralisatrice qui prétend aller apporter tout un tas de peuples qui seraient pseudo-arriérés, je ne sais quoi, nos canons démocratiques et autres, et de marché.
Et on fait en Irak 300 000 civils tués au nom de la démocratie. Mais là, vous posez un problème, je dirais, un problème un peu dramatique, parce que, au fond, les valeurs traditionnelles de la mission militaire, je ne parle pas du métier, je ne crois pas que l'armée soit une entreprise, je considère que c'est une activité de mission. Enfin, c'était. Ces valeurs traditionnelles, c'est l'autorité, c'est la discipline, c'est l'obéissance, c'est la hiérarchie. Toutes choses qui ne sont plus à la mode. Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, un militaire, au fond, c'est un asocial ou un antisocial, puisqu'il pense à autre chose qu'à son intérêt immédiat. Il n'est pas obsédé par ses loisirs ou par sa retraite, parce qu'il met tout de même sa vie en jeu. Il est, comme on dit, embrigadé, puisqu'il obéit à une hiérarchie militaire. Est-ce que l'armée n'est pas devenue une contre-société ?
Je pense au contraire qu'elle est d'une modernité extraordinaire et qu'elle est un sanctuaire vivant, très humain, très en prise avec la réalité de nos temps, bien plus que notre société qui, elle, vit dans un espèce de divertissement vertigineux qui vise à lui faire perdre contact avec le tragique du monde. Vous avez parlé de certaines vertus militaires, la loyauté, l'obéissance, la discipline, etc. Oui, il y en a d'autres. Le courage, l'honneur, la solidarité, la camaraderie, l'esprit de corps. Tout ça, ce sont des choses qui font lien et qui permettent aux militaires de tout rang, de tout grade, des officiers aux soldats, aux simples soldats, d'être ensemble. D'être ensemble pour une mission, effectivement, et au nom d'une vocation, et au nom aussi d'un mandat qui leur est remis par une nation. Et si l'on en revient à l'actualité de nos engagements militaires, qui est quand même forte, et sur laquelle on entend toutes sortes de choses, précisément, pour moi, il y a une grande valeur, une grande capacité de nos armées qui résistent à cette utopie technicienne, bien plus que d'autres, bien plus notamment que les armées américaines, qui résistent encore et qui se posent des questions et qui s'interrogent sur ces questions éthiques et qui veulent préserver cette dimension éthique dans le combat et dans la formation de leurs membres, de leur personnel. Mais il y a un problème de cohérence, c'est-à-dire nos armées font extrêmement bien leur travail. La question, c'est la politique qui est derrière. Et là, on revient sur cette opposition entre, à mon avis, humanité de la réelle politique et bien souvent indifférence de l'idéalisme moralisateur.
Vous avez parlé de cohérence. La cohérence, elle serait à trouver, je dirais, entre l'instance politique et l'instance militaire. L'instance politique décide de toutes sortes d'opérations, des OPEX à l'extérieur, n'est-ce pas, opération Barkhane ou autre. Est-ce qu'il y a pour vous une cohérence dans toutes ces interventions? Est-ce qu'il y a derrière une stratégie? Est-ce qu'il y a derrière une finalité politique claire?
C'est terriblement douloureux pour moi de le dire, mais à mon avis, nous n'avons pas, la France n'a plus, et depuis quelque temps, pas seulement depuis 4 ou 5 ans, depuis en fait une bonne dizaine d'années, nous n'avons plus de vision stratégique. Nous n'avons plus de cohérence stratégique. Nous avons un outil militaire excellent qui a été réduit à la portion congrue et qu'il est encore, hein, qu'on ne nous explique pas que interrompre l'hémorragie budgétaire suffit à faire croire à une grande remontée en puissance. Non, on en est loin et il faudrait l'envisager. Mais on a donc un outil militaire excellent qui se trouve être aussi le seul pan de l'activité d'un pouvoir politique qui obéisse et qui fasse le job. On a tendance à s'en servir un peu à tort et à travers.
L'outil est bon, mais le maître d'œuvre est peut-être moins bon.
Oui, parce qu'il n'y a plus de vision. Parce que nous sommes en ce moment, nous menons un certain nombre d'interventions lourdes, difficiles, compliquées, qui ont, notamment au Mali et au Sahel, une évidente utilité. Mais nous nous sommes engagés, nous avons pris parti dans un conflit au Moyen-Orient confessionnel, alors que ce n'était ni notre intérêt, c'était pas notre intérêt du tout, à aucun point de vue. Et nous en payons le prix, nous en payons le prix sur le territoire national.
Thank you.
ce morceau, c'est vous qui l'avez choisi.
Oui.
Handel, si je ne me trompe, vous l'avez choisi pour quelle raison ?
Je l'aime beaucoup.
C'est oui, ça, je m'en doute.
C'est un morceau. C'est un morceau qui me fait presque pleurer. C'est un morceau à la fois de souffrance et d'espoir. Et je pense être un être à la fois souffrant et plein d'espérance. Donc, j'aime beaucoup l'écouter.
Oui.
Il s'adresse à la nature, au sens le plus large.
Le militaire est l'incarnation du tragique du monde.
Et oui.
Et il y a un côté tragique chez Handel, c'est vrai. Mais alors, revenons à Caroline Galacteros, revenons à ce que nous avions évoqué, c'est-à-dire, au fond, l'utopie technicienne, l'inflation technologique. Elle nous vient d'où ? Ce n'est pas l'art français de la guerre. Ce n'est même pas d'ailleurs l'art français de la police, fondé plutôt sur les sources humaines que sur les écoutes. L'un n'empêche pas l'autre, vous me direz. Mais enfin, il y a des pays où tout est écoute. Tout est
oui,
espionnage vous... électronique, y compris d'ailleurs de nos propres services et dirigeants. Et puis nous avions quelque chose, disons, vous diriez de plus humain, de plus bricolé peut-être, mais disiez-vous de plus efficace. Les errances de ce technologisme un peu béat, ça ne relève pas d'une sorte d'inféodation stratégique à un autre système de pensée ?
Tout à fait, un système de pensée tout à fait, qui nous vient bien sûr, comme beaucoup de choses, d'outre-Atlantique, qui n'a pas que des désavantages, naturellement, mais qui ne doit pas nous égarer et nous faire croire qu'il est la panacée. Et on le voit bien, d'ailleurs, vous évoquiez les questions de renseignement, on voit bien les manques cruels en renseignement humain qui sont les nôtres en France, mais qui sont encore plus ceux, bien sûr, des Américains. Ils l'ont payé fort cher en 2001. Et il continue. Mais bien sûr, on a toujours cette utopie technologique. C'est l'idée, finalement, que l'on pourrait régler toutes les problématiques humaines et surtout préserver notre supériorité, notre préséance à la fin politique et stratégique, en faisant confiance à notre avancée technologique. Voilà. Et donc, on nie la subjectivité là-dedans. On nie. On considère que c'est du bruit, on considère que ce n'est pas bon, que tout ce qui est subjectif est plus faux que vrai, et que finalement la neutralité serait bénéfique. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de neutralité, c'est une autre forme de subjectivité qui remplace celle de l'homme, c'est-à-dire croire en soi, croire que la technologie est une réponse à tout, c'est déjà un parti pris colossal. Et ça fait faire des erreurs considérables.
Mais enfin, vous faites partie de différentes cellules de stratégie française ou européenne. Mais d'où vient que nos matrices culturelles dans ce domaine se soient à ce point effacées ? D'où vient qu'on a toujours 10 ans de retard, d'ailleurs, dans l'imitation des modes américaines, je pense à la révolution dans les affaires militaires, 1990, la virtualisation numérique du champ de bataille, donc déréalisation du monde, etc. Confiance formidable dans les munitions guidées, intelligentes, type drone, etc. La guerre ultra rapide, enfin voilà. D'où vient que on ne puisse pas opposer ce que vous appelez le retour du facteur humain, du facteur culturel, du facteur historique? C'est une subordination politique ou mentale? Les deux, vous allez me dire. Mais alors, que les militaires en soient les récepteurs, c'est ça fâcheux,
pour
tout vous dire.
Mais non, mais alors sur ce point, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce verdict. Je pense que précisément, c'est jugement, c'est idée.
Bon. Cette petite idée.
Je pense, au contraire, que ce retard que vous évoquez est une sauvegarde.
Ah oui, c'est de la résistance.
Non,
non, c'est pas la résistance.
Non, non, ça nous permet de facto de prendre un peu de recul,
d'accord,
de regarder ce qui se passe,
d'accord,
et en tout cas au sein des armées françaises, d'avoir quand même une profondeur de réflexion et une forme de résistance à cela. Après, il faut faire des arbitrages, il faut trouver des équilibres, il faut arriver à prendre le meilleur sans y perdre son âme. Les armées françaises sont des armées connues pour leur haut niveau, précisément, de conscience éthique et de pratique d'exercice de la force maîtrisée. Tout est dans la maîtrise de la force. La pratique américaine, qui s'appuie sur la technologie, est aussi une sorte de... pas d'assourdissement, mais de vertige, si vous voulez, qui entraîne le soldat. Quand on les voit faire la guerre en Irak, ça fait très très peur. Assourdi par de la musique, complètement coupé finalement de ce qui peut rester d'eux-mêmes dans le combat. Voilà, au nom de l'efficacité. Mais quelle efficacité, quand on voit les résultats. Quelle efficacité.
Il paraît que le drone armé, qui a tout de même éliminé beaucoup de terroristes, est un comportement éthique programmé. Il paraît que c'est une arme très morale. C'est une arme, selon Madame Hillary Clinton, qui est l'expression du smart power. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que nous n'avons pas de drone armé. C'est peut-être pas seulement une déficience industrielle. Parce que je crois que... Oh, enfin, on est forcé d'ailleurs de les louer ou de les acheter à ceux qui les produisent, n'est-ce pas ? C'est peut-être une dépendance. Enfin, c'est curieux comment... La façon dont les Américains essayent de moraliser une arme parfaitement immorale.
Mais les Américains cherchent à moraliser la guerre, tout simplement, et à moraliser leur interventionnisme urbi et orbi, et à lui trouver des raisons évidentes de s'exercer.
Pour le moment, nous, c'est plutôt, puisque nous sommes aujourd'hui en octobre 2016, c'est de la Syrie dont on parle, et quand on parle d'interventionnisme, c'est de l'interventionnisme russe. Comment appréciez-vous aujourd'hui, puisqu'on parle à la fois de morale et d'efficacité militaire, puisqu'on parle à la fois de notre diplomatie des droits de l'homme et de nos interventions militaires. Comment expliquez-vous aujourd'hui, Caroline Galacteros, cette sorte d'impuissance que nous avons face à la guerre syrienne ?
Je pense que nous n'avons pas d'impuissance. Je pense que nous avons atteint un sommet à la fois d'aveuglement et de cynisme. Je pense que nous avons fait de très mauvais choix. Et nous sommes effectivement aujourd'hui un peu coincés. C'est-à-dire que si l'on voulait véritablement, de mon point de vue, j'ai des avis certes un peu tranchés sur la question, mais si l'on voulait de mon point de vue arrêter ce désastre, il faudrait déjà commencer par admettre qu'il faut préserver un État syrien. Je ne dis pas le régime syrien tel qu'il est incarné aujourd'hui par Bachar el-Assad, je dis un État syrien. Or, tout a été fait depuis 2011 pour déstabiliser l'État syrien. Tout a été fait. Voilà, à partir du début de l'année 2011. Donc on est aujourd'hui dans une situation où les seuls, finalement, qui font la guerre, la vraie guerre, nous la faisons aussi. Nous faisons aussi des morts, bien sûr, mais on n'en parle pas. Mais la guerre brutale, terrible, terrifiante, au milieu des populations, avec des populations civiles prises en otage, car à Alep Est, tous ces pauvres gens qui sont en train de mourir sous des bombes, meurent parce que ce sont des boucliers humains. On a cherché à les faire sortir, il y a eu tout un tas de propositions qui ont été faites. On ne les laisse pas sortir, tout simplement. Alors effectivement...
On ne les laisse pas sortir.
Mais les groupes islamistes, Al-Nusra et consorts, qui sont dans la ville et qui n'ont aucun intérêt.
Oui,
mais oui, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on laisse sortir ces populations, sinon c'en est fini d'eux. Simplement, ils font face aux forces russes et syriennes qui, elles, ont une conception du terrorisme et du péril islamiste assez élargis et qui ne font pas tous ces savants distinguos entre des gens plus ou moins modérés, plus ou moins rebelles, plus ou moins insurgés, plus ou moins ci, plus ou moins ça. On sait comment est né Daesh, on sait ce qu'est Al-Qaïda, on sait que le front al-Nosra qui sévit en Syrie depuis des années en est une émanation, et on sait qu'en dessous, la pyramide de petits groupuscules, de petites phalanges islamistes de toute nature sont peu ou prou liées à Al-Qaïda et financées par les monarchies du Golfe que nous soutenons. Donc nous sommes dans une espèce de coalition, c'est terrifiant, on est arrivé à un point où en fait, il faudrait dire, ça suffit, il faut préserver l'État syrien. Et c'est en plus ce que dit notre ministre des Affaires étrangères sur les ondes. Il dit qu'il faudrait une Syrie unitaire, préservant ses communautés. C'est-à-dire, il décrit la Syrie d'avant la guerre, en fait, qui existait, qui allait très bien, bon, avec un régime très dur, brutal, injuste, peut-être cruel, etc. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller tresser des couronnes à Bachar el-Assad. Il s'agit simplement de voir que nous sommes dans une espèce de schizophrénie, ou alors, ça veut dire qu'il y a une autre cohérence, mais laquelle ? Qui est l'ennemi ? Qui est l'ennemi ici ? Est-ce que c'est la Russie l'ennemi ? Qui est en train, en fait, de taper les islamistes de manière méthodique, qui ne tape pas énormément Daesh, mais pas plus que nous, à vrai dire, mais qui a pour objectif principal de sécuriser toute une partie du pays, la partie la plus, qu'elle dit, utile, effectivement, qu'il est, économiquement, militairement, pour arriver à en faire le socle d'une renaissance. Parce que sinon, c'est quoi ? La Syrie livrée à Daesh ? La Syrie livrée à Al-Nosra ? Mais imagine-t-on les massacres auxquels on assistera ? Imagine-t-on ce qui va se passer ? C'est ça que l'on veut, nous, la France, pays des droits de l'homme ? Voilà, j'ai un peu de mal avec
Madame le colonel, si je puis me permettre de vous appeler ainsi, je vous trouve une grande indépendance de jugement, une grande lucidité politique, et finalement, ce sont des qualités qu'on retrouve souvent chez les militaires qui sont peut-être les moins militaristes des politiques, les politiques étant plus militaristes qu'eux. Mais j'ai envie de vous demander, des avis comme le vôtre, qui sont informés, est-ce que ça remonte ? Est-ce que ça remonte vers ce qu'on appelle les décideurs ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de ces analyses qui me semblent réalistes ? Parce que, après tout, quand on fait de la stratégie, il faut tout de même s'occuper des rapports de force, il faut tout de même s'occuper des moyens dont on dispose, et surtout des fins que l'on poursuit. Alors, c'est vrai que... est-ce que la grande muette s'exprime de temps en temps ?
Oui, la grande muette réfléchit, s'exprime, et effectivement, le métier militaire est un métier au contact du réel et de l'humain. Voilà, et ça, on ne veut pas le voir, mais il n'y a pas que les droits de l'homme, l'humain. C'est bien sûr l'histoire des rapports de force et la pratique des rapports de force vous mettent face à cela. Alors, est-ce que les avis remontent ? Je pense qu'il n'y a pas que dans le milieu militaire que surgit quand même un certain niveau de lucidité et de réalisme sur la situation telle qu'elle est. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, à vrai dire. Je ne me sens pas vraiment isolée. En revanche, on sent qu'il y a une cécité volontaire absolument indépassable. Et l'armée est au service du politique, de toute manière. Elle est au service de la nation qui, par le biais du politique, lui délègue un mandat.
Revenons, voilà. Si vous voulez bien, Caroline Galacteros, revenons au fond à une sorte de paradoxe ou de découverte, c'est que la motivation du combattant est plus décisive que son équipement. La motivation du combattant, c'est ce qu'on appelle vulgairement le facteur moral. Le facteur moral, qu'est-ce que ça peut être pour un combattant français ? Est-ce que c'est le patriotisme ? Je le souhaite, mais la valeur patrie, disons, la notion même de patrie, comme vous savez, est très contestable. De l'autre côté, c'est Dieu, qui est un facteur moral, ô combien spirituel, lié au sacré, donc au sacrifice. Donc j'en reviens toujours à cette idée. Quelle morale peut avoir aujourd'hui un combattant qui, je dirais, n'est pas en phase avec... Le combattant à l'extérieur n'est pas en phase avec nos valeurs à l'intérieur. Nos valeurs à l'intérieur sont tout de même plus liées à la prospérité individuelle, au niveau de revenus, à la carrière, etc. Comment, disons, ça ne se gère pas la morale, mais bon, qu'est-ce qui fait tenir aujourd'hui un combattant ?
Mais je pense que c'est... Il ne se bat pas, il n'a pas l'idée de se battre pour lui. Il se bat toujours pour sa nation. Il se bat pour sa patrie. Il y croit, c'est-à-dire il a une hauteur de vue, une manière de placer son regard qui passe au-delà de la simple considération individuelle. En même temps, il est inscrit, il vit dans la modernité. Donc, bien sûr, il subit cette évolution vers l'ultra-individualisme, ce souci de soi. Il y a des mouvements qui traduisent ça dans les armées, la judiciarisation. Il y a un certain nombre de mouvements qui sont d'ailleurs gênants, inquiétants. Mais la nature du métier militaire, le sens du métier militaire, c'est quand même toujours de défendre quelque chose de plus grand que soi et de défendre ses concitoyens à travers cela.
Peut-être pourrait-on dire qu'il est protégé de l'esprit du temps par l'esprit de corps,
c'est-à-dire c'est très beau.
Par à la fois une tradition et une cohésion.
Oui.
Vous savez, j'aimerais terminer... notre petite discussion, par une citation de votre livre que je trouve très judicieuse. Les sociétés postmodernes, dites-vous, sont plus que d'autres des sociétés du paradoxe. Alors je vais expliciter ce que vous entendez par là. Ce sont à la fois, dites-vous, des sociétés de la profusion matérielle et de l'appauvrissement éthique. C'est vache tout ça, mais c'est pas faux. Des sociétés de l'ultra-connexion et de la grande solitude, de l'info-dominance, théorie stratégique venue d'outre-Atlantique, et de l'ignorance du monde dans sa complexité, de la volonté de domination et de l'impuissance politique, de la transparence revendiquée comme un must et de l'opacité des mécanismes réels du pouvoir, de la tolérance affichée et du moralisme outrancier, du village global et de l'indifférence la plus brutale. Ben dites-moi, c'est impitoyablement juste ce que vous nous dites. Et c'est pourquoi, au fond, c'est curieux. On peut parler de notre état du monde, de notre société, en parlant des affaires militaires. Eh bien, je vous remercie de nous donner cette leçon.
Je vous remercie infiniment.
Mon colonel.
Je vous remercie.
Les discussions du soir. Caroline Galactéros, Laurence Genepin, Pierre Monteil. Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.